Westminster Hall.
À nouveau, un roi était assis, couronne en tête, sceptre en main, entouré de ses pairs. À nouveau, prélats, comtes et barons étaient alignés de part et d'autre de son trône. À nouveau, clercs, docteurs, juristes, conseillers, dignitaires s'offraient à sa vue en rang pressé. Mais ce n'était pas les lys de France qui semaient le manteau royal. C'étaient les lions des Plantagenets. Ce n'étaient point les voûtes du palais de la cité qui renvoyaient sur la foule l'écho de sa propre rumeur, mais l'admirable charpente de chêne aux immenses arcs ajourés du grand hall de Westminster. Et c'étaient 600 chevaliers anglais venus de tous les comtés, et les squires et les shérifs des villes qui constituaient, couvrant les larges dalles carrées, le Parlement d'Angleterre, siégeant au complet. Pourtant, c'était afin d'écouter une voix française que cette assemblée avait été convoquée. Debout, drapé dans un manteau d'écarlate à mi-hauteur des marches de pierre au fond du hall, et comme ourlé d'or par la lumière tombant derrière lui du gigantesque vitrail, le comte Robert d'Artois s'adressait aux délégués du peuple de Grande-Bretagne. Car pendant les 2 années écoulées depuis que Robert avait quitté les Flandres, la roue du destin avait accompli un bon quart de tour, et d'abord, le pape était mort. Vers la fin de 1334, le petit vieillard exsangue, qui au cours d'un des plus longs règnes pontificaux avait rendu à l'Église une administration forte et des finances prospères, était obligé du fond de son lit dans la chambre verte de son grand palais d'Avignon de renoncer publiquement aux seules thèses que son esprit eût défendues avec conviction. Pour éviter le schisme dont l'université de Paris le menaçait, pour obéir aux ordres de cette cour de France, en faveur de laquelle il avait réglé tant d'affaires douteuses et gardé bouche close sur tant de secrets, il reniait ses écrits, ses prêches, ses encycliques. Maître Buridan dictait ce qu'il convenait de penser en matière de dogme. L'enfer existait, plein d'âmes à rôtir, afin de mieux assurer aux princes de ce monde la dictature sur leur sujet. Le paradis était ouvert, comme une bonne hôtellerie. Aux chevaliers loyaux qui avaient bien massacré pour le compte de leur roi, aux prélats dociles qui avaient bien béni les croisades, et sans qu'il soit assez juste besoin d'attendre le jugement dernier pour jouir de la vision béatifique de Dieu. Jean XXII était-il encore conscient quand il signa ce reniement forcé? Il mourait le lendemain. Il y eut d'assez méchants docteurs sur la montagne Sainte-Geneviève pour dire en se moquant « Il doit savoir à présent si l'enfer existe ». Alors le conclave s'était réuni, et dans un lacis d'embrouille qui menaçait de rendre cette élection plus longue encore que les précédentes, la France, l'Angleterre, l'empereur, le bouillant bohème, l'érudit roi de Naples, Majorque, Aragon et la noblesse romaine, et les Visconti de Milan et les républiques, toutes les puissances pesaient sur les cardinaux. Afin de gagner du temps et de ne faire avancer si peu que ce soit aucune candidature, ceux-ci, une fois enfermés, s'étaient tous tenus le même raisonnement. Je vais voter pour l'un d'entre nous qui n'a nulle chance d'être élu. L'inspiration divine a d'étranges détours. Les cardinaux étaient si bien d'accord in petto sur celui qui avait les moindres chances, sur celui qui ne pouvait pas être pape, que tous les bulletins sortirent avec le même nom, celui de Jacques Fournier, le cardinal blanc, comme on l'appelait, parce qu'il continuait de porter son habit de sitôt. Les cardinaux, le peuple, quand on lui fit l'annonce, et l'élu lui-même, se trouvèrent également stupéfaits. Le premier mot du nouveau pape fut pour déclarer à ses collègues que leur choix était tombé sur un âne. C'était trop de modestie. Benoît XII, l'élu par erreur, apparut bientôt comme un pape de paix. Il avait consacré ses premiers efforts à arrêter les luttes qui ensanglantaient l'Italie et à rétablir, si cela se pouvait, la concorde entre le Saint-Siège et l'Empire. Or, cela se pouvait. Louis de Bavière avait répondu très favorablement aux avances d'Avignon, et l'on s'apprêtait à poursuivre quand Philippe de Valois était entré en fureur. Comment ? On se passait de lui, le premier monarque de la chrétienté, pour entamer des négociations si importantes. Une influence autre que la sienne viendrait à s'exercer sur le Saint-Siège. Son cher parent, le roi de Bohême, devrait renoncer à ses chevaleresques projets sur l'Italie. Philippe VI avait intimé l'ordre à Benoît XII de rappeler ses ambassadeurs, d'arrêter les pourparlers, et ceux-ci sous menace de confisquer aux cardinaux tous leurs biens en France. Puis, accompagné toujours du cher roi de Bohême, du roi de Navarre et d'une si nombreuse escorte de barons et de chevaliers qu'on eût dit déjà une armée, Philippe VI, au début de 1336, venait faire ses Pâques en Avignon. Il y avait donné rendez-vous au roi de Naples et au roi d'Aragon. C'était la manière de rappeler le nouveau pape à ses devoirs et de l'amener à bien comprendre ce qu'on attendait de lui. Or, Benoît XII allait montrer par un tour de sa façon qu'il n'était pas absolument l'âne qu'il prétendait être et qu'un roi, désireux d'entreprendre une croisade, avait quelque intérêt à se ménager l'amitié du pape. Le Vendredi Saint, Benoît montait en chaire pour prêcher la souffrance de notre Seigneur et recommander le voyage de la croix. Pouvait-il faire moins quand 4 rois croisés et 2000 lances campaient autour de sa ville? Mais le dimanche de Quasimodo, Philippe VI partit vers les côtes de Provence inspecter sa grande flotte, eut la surprise de recevoir une belle lettre en latin qui le relevait de son vœu et de ses serments. Puisque l'état de guerre continuait de régner entre les nations chrétiennes, le Saint-Père refusait de laisser s'éloigner vers les terres infidèles les meilleurs défenseurs de l'Église. La croisade des Valois s'arrêterait à Marseille. En vain, le roi chevalier l'avait-il pris de haut. L'ancien cistercien l'avait pris de plus haut encore. Sa main qui bénissait pouvait aussi excommunier, et l'on imaginait mal une croisade excommuniée au départ. « Réglez, mon fils, vos différends avec l'Angleterre, vos difficultés avec les Flandres. Laissez-moi régler les difficultés avec l'empereur. Apportez-moi la preuve que bonne paix, bien certaine et durable, va régner sur nos pays. Et vous pourrez ensuite aller convertir les infidèles aux vertus que vous aurez vous-même montrées. »